Tetrapharmacost, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tetrapharmacos, l'émission qui explore les idées, les croyances, les imaginaires et les tensions qui façonnent nos rapports au monde à travers les textes, les images et la pensée critique. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée dans une notion à la fois familière et mystérieuse, l'idolâtrie. Souvent associée à l'erreur, à l'égarement, à l'image trompeuse ou au culte déplacé, le mot « idole » traverse les siècles chargés de soupçons. Mais que désigne-t-il vraiment? Nous allons interroger ce terme comme catégorie de pensée, comme outil de démarcation religieuse, mais aussi comme dispositif politique et identitaire. Car derrière l'accusation d'idolâtrie se cache souvent un regard sur l'autre, un regard critique, parfois violent, toujours révélateur. D'où vient ce mot? Comment est-il né? Entre les débats des philosophes grecs et les interdits bibliques, comment a-t-il servi à construire une opposition entre le vrai et le faux culte, entre les images permises et les idoles interdites? Et surtout, que nous apprend encore cette histoire aujourd'hui, à l'heure des débats sur le pluralisme, les images religieuses ou les violences symboliques? Pour le découvrir, nous vous invitons à rester avec nous pendant cette heure entre histoire, philosophie, théologie et politique pour penser l'idole autrement. Mon invité pour nous en parler est Daniel Barbu. Monsieur Barbu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des religions, spécialisé dans l'histoire du judaïsme antique et médiéval, chercheur au CNRS et membre du laboratoire d'études sur les monothéismes. Vous êtes également responsable adjoint du programme gradué sciences des religions de l'Université Paris Sciences et Lettres, où vous enseignez l'histoire et l'épistémologie des sciences religieuses. Vos domaines de recherche sont l'histoire des juifs et du judaïsme de l'Antiquité à la période moderne, les polémiques judéo-chrétiennes et l'histoire de l'antijudaïsme, l'histoire intellectuelle de l'Europe, en particulier l'histoire comparée des religions, l'histoire et l'épistémologie des sciences religieuses. Vous êtes entre autres fonctions co-directeur d'Asdiwal, la revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions, ainsi que co-directeur de la collection Histoire des religions chez Labor et Fides à Genève. Parmi vos ouvrages, on peut notamment citer le premier, deux premiers que vous avez coédités, Monde clos, culture et jardin, paru chez Infolio en 2013, ainsi que Monde clos, les îles, également sorti chez Infolio en 2015. Et le livre qui nous intéresse aujourd'hui, Naissance de l'idolâtrie, images, identité, religion, édité par les presses universitaires de Liège en 2016. Alors, Monsieur Barbu, pour commencer, pouvez-vous nous donner une définition générale de l'idolâtrie?
Alors, je pense qu'on ne peut pas définir l'idolâtrie, parce qu'il y a presque autant de définitions de ce terme que d'usage du mot. Mm-hmm. C'était un peu l'un des objectifs de ma thèse, de montrer qu'on est dans une construction de l'idolâtrie qui, de ce fait, n'a pas vraiment de substance. C'est-à-dire... Et là, je reprendrai les mots de Voltaire, qui écrivait déjà au XVIIIe siècle. Il paraît qu'il n'y a jamais eu de peuple sur Terre qui se soit appelé idolâtre ou qui est admis être idolâtre. Oui. C'est toujours un mot d'opprobre, une injure, c'est quelque chose qu'on lance à la figure de son adversaire. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, alors, on a pu, par le passé, utiliser le terme dans un sens technique pour désigner le culte des images. Mais en vérité, on voit bien que même lorsque le mot apparaît chez les auteurs anciens et à travers l'histoire de sa réception, il désigne bien plus que ça. Tertullien nous dit qu'il peut très bien y avoir de l'idolâtrie même sans idole, car le terme renvoie plutôt à une forme d'erreur religieuse, d'errance, de déviance, plus qu'à vraiment une pratique en elle-même. En ce sens-là... Je pense que, c'est une erreur d'employer ce terme pour parler du culte des images, que ce soit dans les mondes anciens ou dans les mondes actuels, parce que ce terme a toujours justement une connotation négative, une connotation qui renvoie à la matérialité du culte, à ses aspects erronés qui seraient inférieurs à un culte purement spirituel, dépourvu d'images, tel que le christianisme prétend l'être.
Alors, il est toujours bon de rappeler l'étymologie d'un terme.
Oui, alors le mot lui-même est un mot grec, eidololatreia, ce qui signifie la vénération d'un eidolon, d'une idole. Mais ce qui est frappant, c'est que ce mot qui, pour nous, paraît tout à fait évident, l'idole, n'est pas un mot courant en grec classique pour désigner des images de culte. Il y a tout un vocabulaire de l'image de la divinité en Grèce ancienne auquel le mot idolon n'appartient que de manière très très marginale. Dans ce sens-là, quelle est la nature de l'idole que l'idolâtre vénère reste en partie énigmatique.
Alors on a l'idole notamment dans l'Odyssée, lorsque Ulysse va consulter le monde des morts. On parle d'idole à ce moment-là.
Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que le mot est effectivement utilisé, mais il n'est pas restreint à une image matérielle.
Oui.
C'est-à-dire, la racine du mot idole, c'est la même racine que le mot voir, vidéo. C'est-à-dire, c'est une image immatérielle à la base. C'est-à-dire, lorsque Ulysse descend au monde des morts, ce qu'il voit, c'est le fantôme de sa mère. Et donc, il y a cette association avec une image qui n'a pas d'existence réelle. Chez Platon, par exemple, les reflets dans l'eau sont désignés comme des idoles. C'est quelque chose que l'on voit, mais qui n'existe pas réellement, une sorte de faux semblant, en fait. Et donc, c'est pour cette raison, parce qu'il y a cette qualité un peu trompeuse, que le terme sera employé à l'époque hellénistique par les auteurs judéens de langue grecque, pour la plupart établis en Égypte, pour désigner les dieux qui n'ont pas d'existence réelle, que l'on pense voir, mais qui n'ont pas de substance. Donc c'est ce terme qui est privilégié et qui en vient à désigner progressivement, qui devient un terme technique, qui désigne dans la langue des juifs puis des chrétiens les statues de culte. Mais ce n'est pas un terme qui appartient au vocabulaire grec de l'image de culte.
Oui. Alors, dans votre livre, votre premier chapitre, vous l'intitulez l'invention de l'idolâtrie. Alors, est-ce que c'est volontairement provocateur ou critique?
Alors en fait, je pars d'une autre direction, c'est-à-dire je vois que ce terme a eu une importance considérable beaucoup plus tard, c'est-à-dire les débats qui notamment opposent protestants et catholiques dans le sillage de la réforme et des guerres, puis le sillage aussi des découvertes. C'est un terme qui est réactivé et qui revient régulièrement. Soit effectivement dans les polémiques interconfessionnelles, c'est-à-dire que pour les protestants, pour les auteurs protestants, les catholiques sont des idolâtres, et l'étude qu'ils appellent le paganisme ou l'idolâtrie antique permet de dénoncer, si vous voulez, les survivances, les superstitions, les erreurs et les errements de l'Église, des conciles et de la tradition catholique. Et en parallèle, si vous voulez, le terme apparaît aussi pour comprendre, classer, chercher à saisir l'origine et la nature de ces religions que les explorateurs, les missionnaires européens rencontrent en Amérique, en Afrique, en Asie. Avec cette observation qui est formulée par un savant du XVIIe siècle, par exemple, Edward Brerwood, écrit ses recherches curieuses sur la diversité des religions, et qui en arrive à la conclusion que plus de deux tiers de la planète semblent être idolâtres. Donc ce terme est une espèce de mot-valise, comme ça, qui désigne, dans les contextes polémiques, les adversaires, dans les contextes ethnographiques, à peu près, effectivement, les deux tiers des religions de l'humanité, qu'on n'a pas encore, à cette époque-là, appris à classer, à distinguer entre ce que nous appelons le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Tout cela est, si vous voulez, pêle-mêle englobé dans cette catégorie de l'idolâtrie. Et donc, je me suis interrogé, si vous voulez, sur les origines de cette notion, sur la généalogie de ce terme. À quel moment, pourquoi on en vient à employer le mot lui-même, idolâtrie, d'où vient-il? Et que sert-il à faire? Parce qu'on le voit, effectivement, le terme lui-même ne peut pas être séparé de ses usages pragmatiques, de ce qu'on lui fait dire, que ce soit dans un contexte de polémique ou dans un contexte des découvertes, etc. Et donc, c'est là, c'était pas forcément provocateur, effectivement, c'est de chercher au quand est-ce qu'il apparaît, parce qu'il a une origine, si vous voulez, ce n'est pas un mot qui existe de tout temps. C'est-à-dire, on peut effectivement dire que dans les textes bien antérieurs à son apparition, il y a une conception de ce qu'on appelle l'erreur religieuse, de l'erreur qui consistait à vénérer des dieux sous forme d'images, notamment dans les textes bibliques, mais aussi dans certaines traditions philosophiques grecques. Il y a là quelque chose qui n'est pas singulier au monde de la Bible, si vous voulez. Il y a un moment donné où cette critique s'articule à un terme, à un concept.
Oui.
Et ça a une date de naissance, pour ainsi dire. Alors, date de naissance, c'est un peu vague, parce qu'on ne peut pas vraiment dire quand le mot apparaît la première fois, en tant qu'il est la première fois.
Oui.
On peut se dire quelles sont ses premières occurrences.
Oui.
Donc, ce terme, on le voit effectivement apparaître dans des textes du tournant du 1er siècle, avant 1er siècle de notre ère, chez les auteurs juifs, qui l'emploient pour parler de ce que font les gens dont il faut se tenir à l'écart.
Oui. Alors, justement, arrivons au monde de la Bible et voyons un peu les prémices de tout ça. Parce que dans la Bible, on mentionne des parties du corps, Dieu, les mains, le visage, mais on ne le représente pas. Alors, il y aura l'expérience ou l'histoire du veau d'or, où le peuple qui sortait d'Égypte a ressenti ce besoin de représenter une divinité. Et là, en fait, c'est une première forme d'idolâtrie, non ?
Oui, alors en tout cas, c'est en ce sens-là que ça a été interprété. C'est-à-dire que ce passage du veau d'or est non seulement intéressant dans son biblique, mais aussi dans l'histoire de la réception de cet épisode, pour revenir à des débats plus historiques.
Oui.
C'est typiquement l'exemple qui est mobilisé par Jean Calvin dans ses institutions chrétiennes pour montrer l'erreur des catholiques qui font exactement la même chose que ce que faisaient les Hébreux dans le désert, c'est-à-dire vénérer la bonne divinité, mais sous une mauvaise forme, en lui donnant une forme matérielle. Alors effectivement, on voit dans plusieurs textes bibliques apparaître cette idée que Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte, ne doit pas être représenté sous une forme matérielle. Alors effectivement, on pourrait penser qu'il y a une contradiction, parce que ce même Dieu est aussi décrit de manière anthropomorphique en divers endroits de la Bible, c'est qu'il y a là aussi une longue histoire d'exégèse et d'interprétation, parce qu'il va falloir expliquer cette contradiction. Et là, il y a évidemment une histoire tout à fait fascinante qui nous entraîne jusqu'à la philosophie juive médiévale, où on essaye d'expliquer en fait ces anthropomorphismes comme des manières pour Dieu de s'abaisser au niveau de l'intelligence humaine et de permettre aux êtres humains de comprendre la nature de la divinité, ce qu'ils seraient incapables de faire dans le langage de la divinité elle-même. Donc l'idée qui surgit dans cette tradition exégétique, c'est que la Torah parle le langage des hommes. Et donc, pour parler le langage des hommes, elle doit aussi recourir à ces anthropomorphismes. Mais évidemment, si vous voulez, donner corps à ces anthropomorphismes, c'est-à-dire donner véritablement une forme matérielle à cette divinité, c'est faire un pas de trop. Que, du moins, le récit biblique nous dit être une erreur, que les Hébreux ont déjà commis, alors ils la commettent en fait plusieurs fois, puisque l'idolâtrie, c'est-à-dire en fait la tentation de l'idolâtrie, est un élément moteur dans le récit biblique, parce que ça, si vous voulez, ça commence avec le veau d'or, mais c'est une maladie chronique récurrente dans le récit biblique qui explique les aléas aussi de l'histoire d'Israël, les persécutions subies par les grands empires, la destruction de Samarie par les Assyriens au 8e siècle avant notre ère, puis la destruction de Babylone, l'exil des Juifs, tous ces moments de crise qui jalonnent l'histoire de l'ancien Israël dans le récit biblique sont causés par, du point de vue des narrateurs bibliques, sont causés par une sorte de rechute dans l'idolâtrie. C'est-à-dire que le veau d'or devient un récit paradigmatique de ce qu'Israël ne cesse de faire.
Oui. Alors, pour les Hébreux, Dieu sera invisible et ils vont démontrer aux autres nations que leurs dieux ne sont que des représentations matérielles et que même le clergé détourne parfois les offrandes. C'est notamment l'histoire de Bel et Daniel.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on est là au terme, si vous voulez, d'une longue évolution théologique, parce que vraisemblablement, dans des périodes plus anciennes, le Dieu d'Israël avait une statue au temple de Jérusalem.
Oui.
La statue a sans doute été détruite dans le contexte de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens au tout début du 6e siècle avant notre ère. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir des réélaborations théologiques pour expliquer que le Dieu d'Israël se passe d'image, qu'il peut exister indépendamment de l'image et aussi plus tard indépendamment du temple. À partir de là, si vous voulez, on exploite le caractère qui peut sembler absurde des rituels des autres peuples, notamment des Babyloniens, pour les tourner en dérision, pour essayer de montrer à travers la satire que ces dieux ne sont jamais rien d'autre que des morceaux de bois, de fer, d'or, d'argent, ce que nous appelons désormais des idoles. Mais effectivement, dans la Bible hébraïque, il n'y a pas un seul terme pour désigner ces idoles. Il y en a tout un ensemble. Hein. C'est un vaste ensemble de termes qui décrivent ces dieux babyloniens ou ces dieux égyptiens ou ces dieux cananéens. On les appelle des vanités, des choses qui n'ont pas d'essence, des morceaux de bois, on a des termes plutôt injurieux pour les désigner. Voilà, mais il n'y a pas un terme autour duquel, si vous voulez, se cristallise cette polémique. C'est dans la Septante, c'est-à-dire dans la traduction grecque de la Bible hébraïque, si vous voulez, est réalisée à partir du 3e siècle avant notre ère, il y a des choix de traduction qui sont opérés, et que ce vocabulaire en vient à être resserré, et que la notion d'idole devient un terme technique pour parler justement de ces divinités matérielles. Mais ça implique beaucoup de choses, parce qu'évidemment ça fait aussi entrer tout un bagage linguistique lié à la notion d'idole dans cette polémique. Notamment, on l'a vu avec Ulysse, l'idée que l'idole est une sorte de fantôme, d'image des morts, et quelque chose de tout à fait évanescent. Donc si vous voulez, ça permet à la fois de réduire à néant la réalité de ces divinités, et puis d'en critiquer l'origine, en fait. Ce seraient des êtres humains du passé, des rois qui ont été divinités, ou ce seraient des morts dont on aurait fait des images.
Alors il faut qu'on remonte quand même à Abraham, qui est une figure importante dans la construction d'un récit de rupture avec l'idolâtrie.
Oui, mais alors, pas nécessairement dans le texte biblique lui-même. C'est là aussi où, si vous voulez, je me suis beaucoup penché sur l'histoire des réélaborations et des réécritures de la légende d'Abraham. Et Abraham, apparaissant, pas seulement dans le judaïsme, mais aussi dans le christianisme et l'islam, comme une sorte de point de départ de la révélation monothéiste, c'est-à-dire c'est celui qui aurait le premier compris, en regardant les astres et le cycle des planètes, qu'il devait y avoir un premier moteur immobile, si vous voulez.
C'est ça.
Et donc, à partir de ce moment-là, la légende d'Abraham fait de lui le premier destructeur des idoles. C'est-à-dire, la légende d'Abraham fait de lui le premier destructeur des idoles. On va jusqu'à raconter que son père, Terah, était en fait même un artisan qui fabriquait des idoles, avec cette histoire célèbre, qui raconte qu'Abraham est arrivé dans l'artisan de son père, a détruit toutes les statues et les images qui étaient là, puis a placé le bâton dans la main du dieu Bel. Et lorsque son père est arrivé, il lui a dit « Qu'as-tu fait, mon fils ?» Il dit « C'est pas moi, c'est ce dieu qui a détruit tous ses camarades. » Voilà, donc si vous voulez, là on est aussi toujours dans le registre à la fois de la polémique et de l'humour. Et donc, ce qui m'a intéressé beaucoup aussi, si vous voulez, c'est cet usage de la satire et de la dérision pour anéantir, si vous voulez, le caractère tangible de ces divinités.
Alors, le livre d'Enoch va jouer un rôle important également. Qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'apparition des idoles ?
Alors, le livre d'Enoch, c'est aussi, si vous voulez, un ouvrage qui appartient à ces traditions parallèles qui se développent dans le contexte du judaïsme antique, et qui insiste effectivement beaucoup sur la question des origines du mal.
Oui.
Pas seulement la question des origines des idoles. Et le livre d'Enoch développe notamment ce thème de la chute, de la descente des anges, qui seraient venus sur terre pour coucher avec les filles des hommes. Et il fait de ce récit, si vous voulez, les origines de la corruption de l'humanité. Donc ces anges, dont les descendants seront d'ailleurs les démons, c'est-à-dire les agents responsables du mal et de la maladie dans l'histoire, ces anges enseignent toutes sortes de choses aux êtres humains lors de leur passage sur Terre, des techniques artisanales. Ils enseignent aux femmes à se maquiller, voilà. Ils apprennent aux hommes à faire des images. Et donc, si vous voulez, dans une certaine tradition, ce récit, ce mythe d'Enoch devient une espèce de lieu d'origine de l'idolâtrie. Parce qu'on est bien avant Abraham, on est à un moment donné où on se pose la question de savoir pourquoi l'histoire humaine a mal tourné, que s'est-il passé, à quel moment les êtres humains ont-ils commencé à vénérer des dieux qui n'étaient pas les bons dieux et à donner des dieux forme humaine. Alors, une des explications possibles, c'est justement cette intervention d'êtres non humains, surnaturels, si on veut, des anges, qui portent d'ailleurs les noms des planètes aussi, qui sont descendus sur Terre et puis qui ont appris aux humains des choses qu'ils n'auraient pas dû leur apprendre et donc qui ont ainsi contribué à la corruption de l'humanité. Ça, c'est une des traditions d'explication possible des origines de l'idolâtrie et plus généralement des origines du mal et de la condition humaine.
Très bien. Alors, comment les rabbins conçoivent-ils l'idolâtrie ?
Les premiers rabbins ne conçoivent pas vraiment le christianisme.
Oui, bien sûr.
Mais évidemment, dans un développement historique, à partir de l'Antiquité tardive et surtout au Moyen-Âge, les rabbins réfléchissent au christianisme, à ses origines, à sa nature. Et là, effectivement, pour les rabbins, on va mobiliser cette notion d'idolâtrie, avodah zara, parce que le christianisme apparaît comme une forme d'idolâtrie, très clairement. Ça, c'est un thème récurrent, si vous voulez, dans la tradition juive. Donc le christianisme est une forme d'idolâtrie, et les questions qui peuvent se poser, par exemple au Moyen-Âge, sont des questions tout à fait pratiques. À partir du moment où les juifs vivent en terre chrétienne, ont-ils le droit ou non d'interagir avec les chrétiens tel ou tel jour de la semaine, étant donné que cela revient à interagir avec des idolâtres? Mais si on remonte dans le temps, effectivement, on voit qu'au début, l'idolâtrie n'est pas nécessairement théorisée de manière aussi détaillée dans la tradition rabbinique qu'elle l'est dans la tradition chrétienne. Elle apparaît en fait comme une espèce de problème social, c'est-à-dire qu'il faut éviter justement d'interagir avec des peuples idolâtres, c'est-à-dire interagir certains jours. Quels sont les jours de la semaine lors desquels on a le droit d'aller au marché ou non? Ce type de questions tout à fait pratiques, si vous voulez, qui se posent notamment dans la Mishnah Avodah Zara, la Mishnah consacrée à l'idolâtrie. Alors, ce qui distingue évidemment la réflexion rabbinique sur l'idolâtrie lorsqu'elle prend une forme plus concrète, c'est qu'effectivement, elle ne recourt à peu près jamais à cette tradition du livre d'Enoch qui voit dans la descente des anges les origines du mal et les origines de l'idolâtrie. Elle considère que la cause de l'idolâtrie est proprement humaine.
D'accord.
Donc elle peut relativement peu intervenir des êtres surnaturels pour expliquer pourquoi l'humanité a fini par se corrompre. Les êtres humains se sont corrompus tout seuls, sans intervention démoniaque, si vous voulez.
Alors, l'idolâtrie va être réactivée, vous l'avez dit, au moment de la découverte du nouveau monde, de la découverte de ces nouveaux peuples. Il faut qu'on explique un peu la réaction de la chrétienté dans un premier temps face à ces nouveaux peuples qu'ils découvrent et leur culte, leur religion.
Là, c'est très simple, c'est-à-dire que la tradition de l'Antiquité, la tradition de critique de l'idolâtrie dans l'Antiquité, notamment chez les pères de l'Église, fournit à ces Européens du XVIe, XVIIe siècle tous les outils pour interpréter ce qu'ils découvrent. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, toutes ces traditions sur les origines démoniaques de l'idolâtrie sont à portée de main. Les premiers explorateurs qui arrivent au Nouveau Monde disent « Ah ben, ce que nous voyons là correspond exactement à ce que les pères de l'Église décrivaient des religions de l'Antiquité.
Oui.
Des rituels, des sacrifices, de l'idolâtrie. » Alors, il y a des passages relativement intéressants, ce passage où Cortés à Mexico et écrit au roi Charles Quint qu'il a abattu toutes les idoles et qu'il les a remplacées par des images de la Vierge. Effectivement, d'un point de vue extérieur, on pourrait se poser la question ce que signifie ici l'idée d'avoir abattu l'idolâtrie, vu qu'au fond, on a remplacé une image par une autre. Mais effectivement, dans ce contexte-là, la comparaison est tout de suite activée. Ce que l'on trouve dans le Nouveau Monde, c'est ce qui est décrit dans la tradition biblique, puis dans la tradition patristique, des religions de l'Antiquité.
Et alors, on va quand même dire que c'est une part probablement démoniaque, mais que dans le fond, il y a une lumière divine. On pratique un culte parce qu'il y a quand même une étincelle divine derrière toutes ces religions.
Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, certains auteurs vont le dire, mais ils sont souvent trouvés minorisés. Le plus célèbre d'entre eux, bien sûr, c'est Bartolomé de Las Casas, qui, dans un épisode historique célèbre, La controverse de Valladolid, défend l'idée que les Indiens, en étant idolâtres, c'est le terme qui fait débat dans ce contexte, ne font que suivre la lumière naturelle. C'est-à-dire que tous les êtres humains sont naturellement attirés vers Dieu, mais qu'en l'absence de grâce, ou qu'en l'absence de révélation, leurs pas sont détournés. Alors là, c'est intéressant parce que si vous voulez, dans ce contexte-là, il y a déjà toute une réflexion qui s'est mise en place au Moyen-Âge à partir de Thomas d'Aquin, qui disait la cause est en effet démoniaque, c'est-à-dire que les démons continuent à détourner les êtres humains de la voie de Dieu et à les entraîner en direction de l'idolâtrie, mais la cause est aussi humaine, c'est-à-dire qu'elle est aussi psychologique ou cognitive. C'est-à-dire que les êtres humains ont besoin de support, ils ont besoin de visualiser ce vers quoi doivent tendre leurs aspirations religieuses, si vous voulez. Et là, Bartolomé de Las Casas est relativement fin psychologue, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il voit bien que l'erreur de ces Indiens ne les définit pas. Elle constitue un phénomène naturel et historique qui ne pourrait en aucun cas justifier leur asservissement ou même la destruction des Indes. Mais malheureusement, Las Casas n'est pas entendu. Et son histoire apologétique, rédigée dans ce contexte, n'est véritablement retrouvée et éditée qu'au XIXe siècle. Donc, si vous voulez, les gagnants de cette controverse sont ceux qui, au contraire, considèrent que les Indiens sont par définition des idolâtres et que l'idolâtrie est une erreur et que pour cette raison, ils peuvent être asservis et qu'il est juste d'établir l'esclavage et la domination sur les Indes.
Alors, il faut que nous parlions également de la vision des chrétiens par rapport aux musulmans ou inversement. Comment ces deux religions s'appréhendent-elles en termes d'idolâtrie?
Alors, je suis assez mal placé pour parler de la tradition islamique, bien que il me semble que les chrétiens peuvent facilement se trouver accusés d'associationnisme en islam. Dans le même temps, ils ne font pas partie des peuples condamnés pour idolâtrie. Ils font partie plutôt des peuples du livre, qui donc sont monothéistes, bien que dans l'erreur. Jésus est lui-même une figure coranique, considéré par l'islam comme un prophète très important, et pas du tout comme dans la tradition juive, comme un hérétique qui aurait entraîné une partie de son peuple dans la déviance. Du côté du christianisme, l'islam apparaît d'abord en fait comme une hérésie. Temps de Damas, lorsqu'il est un hérésiologue byzantin, qui est un des premiers auteurs à écrire et à décrire l'islam et son histoire, alors qu'il est lui-même en fait fonctionnaire à la cour omeyyade de Damas, décrit justement l'islam comme la dernière des hérésies, c'est-à-dire que c'est en fait une déviation de la vérité chrétienne. Ce qui n'empêche pas, par la suite, dans la tradition même populaire chrétienne, d'envisager l'islam comme une idolâtrie, de représenter des fois Mahomet en train de vénérer une statue du diable, voire d'être lui-même qualifié d'une sorte de démon, et d'appeler les Sarrasins, les Maures, les musulmans, de les qualifier promptement d'idolâtres. C'est le cas notamment dans la chanson de Roland, où on parle des Sarrasins comme des idolâtres. Par la suite, cependant, on voit bien quand même que, à l'époque des découvertes et de l'expansion, si vous voulez, européenne dans le monde, on fait une distinction assez nette entre ces traditions que l'on pourrait appeler les traditions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme, l'islam et l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on classe les religions du monde en quatre grands groupes, justement l'islam, le judaïsme, le christianisme et l'idolâtrie qui renferment, si vous voulez, tout le reste. Mais donc, il y a là une très nette conception du fait que l'islam ne relève pas de l'idolâtrie.
Alors, il faut qu'on revienne au XVIe siècle avec la réforme, le mouvement de la réforme, justement. En fait, ce sont les protestants qui vont accuser les chrétiens d'idolâtrie. Vous l'avez déjà évoqué, mais est-ce que vous pourriez développer encore ce point?
Oui, c'est-à-dire que...
C'est le culte des saints, c'est la pratique de la représentation de statues, etc., qui va être dénoncée comme étant une sorte d'idolâtrie.
C'est surtout les images. Ce sont surtout les images qui apparaissent, notamment, voilà, encore chez Calvin, comme l'erreur fondamentale. C'est-à-dire la vénération d'images, sous quelque forme qu'elle soit, est une idolâtrie. Donc lui, il prend l'argument des catholiques qui vise à dire que ce n'est pas l'image elle-même qu'on vénère, mais c'est Dieu à travers l'image, pour dire précisément c'est ce que faisaient les Hébreux avec le veau d'or. C'est-à-dire en affirmant qu'ils ne vénéraient pas le veau lui-même, mais qu'ils vénéraient Dieu à travers le veau. Et donc les catholiques sont ici comparés aux juifs idolâtres. C'est une vieille analogie, parce que déjà comparer les Hébreux à des idolâtres en raison de l'épisode du veau d'or.
Oui.
Donc Calvin mobilise effectivement ce même épisode pour faire des catholiques des idolâtres. C'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement chez les érudits protestants du XVIe, XVIIe siècle qui commencent justement à s'intéresser aux traditions de l'Antiquité, aux traditions, au corpus ethnographique qui est en train de se créer dans le monde européen, dans le but de démontrer, si vous voulez, les conformités qu'il peut y avoir entre le culte des images, le culte des saints et certaines autres traditions chrétiennes, notamment le clergé aussi, le catholique, le clergé aussi, etc., avec le paganisme antique ou l'idolâtrie contemporaine. Mais si vous voulez, à long terme, ce mouvement-là crée aussi une production de savoir qui est tout à fait intéressante, parce qu'on commence à étudier les religions de l'Antiquité et les religions de l'Amérique ou de ces autres qu'on découvert par les Européens, d'abord pour des polémiques. Et puis finalement, on essaie de comprendre effectivement la nature de ces phénomènes. Pourquoi les êtres humains en viennent-ils finalement à vénérer des images, à pratiquer certains rituels? Si vous voulez, c'est comme ça qu'on en arrive notamment aux auteurs des Lumières, qui, je pense à Jean-Frédéric Bernard, qui a édité au début du XVIIIe siècle les cérémonies et coutumes de tous les peuples du monde, dans lesquels il dit, en termes de théologie, en termes de connaissance de Dieu, à peu près tout le monde s'égare.
D'accord.
Mais tous les peuples font des choses tout à fait extravagantes, tout à fait fascinantes. Tous les peuples dansent, tous les peuples font des processions, tous les peuples ont des images, ils font des temples, ils ont des clergés. Et donc, quand bien même ils seraient dans l'erreur, ces choses-là méritent qu'on s'y arrête, méritent d'être comparées et d'être un objet d'enquête à part entière. Et donc, si vous voulez, c'est à ce moment-là que la polémique devient aussi un outil de construction du savoir sur les religions. Donc l'idolâtrie est ici un terme moteur, parce que c'est, si vous voulez, à cette époque-là, on ne peut pas interroger les origines de la vraie religion, puisque la vraie religion, elle est donnée. L'idolâtrie, elle, apparaît comme un phénomène qui aurait surgi à un moment donné dans le temps, que ce soit comme dans la tradition des livres d'Énoch et tout ce qui s'ensuit, parce que les démons sont intervenus pour détourner l'homme du droit chemin, soit comme dans une tradition parallèle, qui est d'abord effectivement dans la tradition rabbinique, puis la philosophie juive, mais qui ensuite est aussi assimilée par la tradition chrétienne, et qui s'interroge sur le processus naturel, comme chez l'Ascasas, psychologique, par lesquels les êtres humains, à un moment donné de leurs histoires, ont commencé effectivement à établir des images, rendre des cultes à d'autres êtres humains. Et donc, on en arrive à une réflexion qui, à partir de cette notion d'idolâtrie, permet de penser ce que nous appellerions aujourd'hui l'origine des religions.
Et alors, comment est-ce qu'on appréhende ce terme aujourd'hui? Quel sens a-t-il, idolâtrie?
Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un mot poubelle, en quelque sorte. Pour les historiens des religions, il a une valeur historiographique parce qu'il nous permet de comprendre comment on a commencé à conceptualiser les différentes religions en déconstruisant et fragmentant cette catégorie. Au tournant du XVIIIe, XIXe siècle, apparaissent ces termes comme l'hindouisme, le bouddhisme, le shintoïsme, le taoïsme, qui permettent, si vous voulez, de mieux définir les contours de ce qui était auparavant à l'intérieur de cette vaste catégorie d'idolâtrie. Évidemment, toutes les formes de religiosité qui ne sont pas associées à une espèce de réalité géopolitique restent indéfinies.
Oui.
On parle encore des traditions indigènes, de l'animisme ou du chamanisme, comme des espèces de termes qui pourraient englober des formes des pratiques religieuses qui vont de la Sibérie jusqu'à l'Amazonie. On n'a pas de catégorie englobante,
oui.
Tandis que bon, les grandes réalités géopolitiques comme la Chine, l'Inde ou le Japon, là, on a pu créer des concepts plus précis comme le christianisme, le judaïsme ou l'islam le sont pour les mondes européens. Mais dans les études sur l'histoire religieuse ou les sciences religieuses, aujourd'hui, je pense que plus personne n'emploierait de manière descriptive ou évidente le terme d'idolâtrie pour parler de ces phénomènes que sont le culte de la vénération de divinités sous des formes matérielles, sous forme d'images. Donc on a quand même, si vous voulez, évolué dans la manière dont on pense ces phénomènes et ces pratiques-là.
Toutes les religions, on peut dire, sont mises sur un pied d'égalité.
Par les sciences religieuses ?
Oui, c'est ça.
Alors, a priori, ça ne fonctionne pas toujours dans les faits, mais théoriquement, il n'y a pas de... C'est-à-dire, il faudrait prendre une position extérieure aux objets et voir que des choses que l'on a appelées idolâtrie chez les autres et condamnées comme de l'idolâtrie chez les autres sont des choses qui existent aussi chez soi. Comme lorsque, justement, Cortés abat les idoles de Moctezuma pour établir des statues de la Vierge. C'est là où on voit bien que c'est un terme qui fait partie du discours plus que d'une quelconque réalité.
Oui.
On est toujours l'idolâtre de l'autre ou l'hérétique de l'autre, si vous voulez.
C'est
cette dynamique-là qui m'a intéressé.
Parfait. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de cette émission. Un grand merci à vous, Daniel Barbu, pour cet éclairage dense et passionnant sur la genèse de l'idolâtrie, non pas comme simple superstition du passé, mais comme concept clé pour comprendre nos héritages religieux, nos frontières symboliques et peut-être même nos réflexes culturels face à l'altérité. Si cette plongée dans l'histoire des images et des catégories religieuses vous a intéressé, n'hésitez pas à prolonger la réflexion avec son livre « Naissance de l'idolâtrie » paru aux presses universitaires de Liège. Dans 2 semaines, nous changerons de registre. Tout en restant dans les profondeurs des traditions fondatrices, nous parlerons de la transmission des textes d'Homère, de leur préservation et de leur circulation à travers les siècles avec Claire Lefeuvre, professeur à Paris, Lettres Sorbonne, université spécialiste de philologie grecque et des savoirs antiques. Merci de votre écoute fidèle. D'ici là, prenez soin de vous. Et souvenez-vous, dans Tetrapharmacos, on cherche toujours à penser contre les évidences pour mieux les éclairer. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast, soit sur le site de la radio, soit sur la plateforme Radio Player. Excellente semaine à toutes et à tous. Et merci beaucoup encore, Monsieur Barbu, et au revoir.
Au revoir.